au musée du Louvre.
En fait, notre exposition montre justement les liens culturels qui existent entre donc, la mer Égée et la péninsule anatolienne, donc la Turquie d'aujourd'hui, au travers notamment de rapprochements stylistiques entre des statuettes et des figurines qui datent du néolithique et de l'âge du bronze. Nous sommes entre 5000 et 3000 ans, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et justement, tous les échanges culturels et commerciaux sont finalement résumés par ces formes très simplifiées que sont donc les idoles cycladiques et les idoles anatoliennes.
Idole, c'est le grand titre hein, de la prochaine expo du musée Fenaille. Bon, alors idole, moi je connais Johnny Hallyday. Mais bon, sinon, même pour les spécialistes, le terme n'est pas très clair. Ludovic Augier, conservateur du département des antiquités grecques, étrusques et romaines au musée du Louvre.
C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on les étudie beaucoup. Est-ce que ce sont des idoles au sens où on entend nous des représentations de dieux? En fait, non. Idole, c'est un vieux terme du 19e siècle, mais on l'a gardé par tradition. On sait qu'on en gardait dans les maisons, mais à quel usage? Pour des rituels probablement domestiques, mais pas forcément des cultes. On en plaçait dans les tombes, mais on en brisait exprès dans les tombes. On en brisait dans des dépôts qui ressemblent presque à des sanctuaires, mais qui n'en sont pas tout à fait. Ce sont des civilisations d'avant l'écriture, des civilisations préhistoriques. Autrement dit, on n'a pas de témoignage. Il faut faire parler les contextes, les objets, pour essayer de comprendre comment ces statuettes étaient utilisées, quels étaient les rites. Et on essaiera de l'expliquer dans l'exposition, mais avec modestie, parce que précisément, ce sont des hypothèses. Mais une enquête, c'est toujours intéressant.
On est entre les pyramides de Khéops, cette période-là, d'un côté.
Alors, effectivement, les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos sont contemporaines des idoles cycladiques en marbre et des idoles anatoliennes. Effectivement, on est entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ.
Donc ça, c'est pour la partie orientale et la partie occidentale. Ce qu'on dit maintenant, c'est l'époque aussi de nos statues menhirs ici à Fenaille.
Voilà, et c'est également contemporain des statues menhirs, que l'on trouve au musée Fenaille, tout à fait.
Et pourtant, rien à voir entre ces trois éléments.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes en fait sur des cultures extrêmement diverses qui occupent le bassin méditerranéen et l'Europe et qui en même temps donc ont des types de sociétés très différentes. Certaines utilisent l'écriture et ont des villes très hiérarchisées, très structurées. D'autres sont plutôt des chefferies avec une autre forme de société moins hiérarchisée, avec des habitats moins monumentaux, par exemple, et l'absence d'écriture et d'une administration complexe. Mais en même temps, elles sont contemporaines, et probablement d'ailleurs qu'il y a des échanges commerciaux entre toutes ces cultures.
Alors, vous avez parlé de monuments, c'est vrai que l'Égypte, c'est les pyramides. Ici, les statues menhirs, il fallait quand même les porter. Sur les objets là, vous présentez les idoles, l'époque cyclade d'Anatolie, on est sur du petit objet uniquement?
Alors, nous sommes sur des petits objets majoritairement, de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres, mais mon collègue va vous parler de statues beaucoup plus grandes.
Mais oui, parce que nous présentons dans l'exposition la fameuse tête de Kéros, qui est considérée comme la Joconde de l'art cycladique. C'est pas nous qui le disons, ce sont de grands artistes et de grands critiques d'art des années 30-50. Et cette tête est cassée au cou. Mais en fait, comme on connaît très bien les jeux de proportions entre la tête et le corps de ces œuvres, la tête faisant 27 cm, elle appartenait à une statue d'1,50 m. Donc dans les Cyclades, certaines œuvres pouvaient mesurer jusqu'à 1,50 m. Et ça, évidemment, aujourd'hui, on s'en rend moins compte quand on regarde un fragment, mais en l'occurrence, c'est un fragment et un chef-d'œuvre à la fois. Cette tête a été découverte à Kéros en 1871-72 et elle a été acquise tout de suite par un archéologue français qui s'appelait Olivier Raillet, qui était très curieux. C'était un jeune archéologue très réputé justement pour d'abord son sens de l'aventure et sa grande curiosité, parce qu'à cette époque-là, ces œuvres, on ne les connaît pas et on ne les trouve pas très belles. On s'intéresse au Parthénon, pyramides, à Phidias, etc. La première fois qu'on a commenté ces œuvres en Europe, c'est pour dire qu'elles étaient laides, moches, absolument barbare. Hein. Bon, mais lui s'intéresse à tout. Donc, un dignitaire de l'île voisine à Morgos lui dit si vous voulez, je vous la vends. Donc, il la prend. Et il l'a tout de suite offerte au Louvre en 1873. Et c'est devenu l'emblème de l'art cycladique à Paris. Mais il a fallu quelque temps pour que les artistes, les historiens de l'art apprécient ce genre d'œuvre. Il faut attendre les avant-gardes, toute fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, quand les artistes cherche autre chose que l'art académique, les classiques. Ils veulent s'intéresser à l'art africain, à l'art de l'Asie du Sud-Est, à l'art du Cambodge, à l'art de la Malaisie, et pourquoi pas à l'art des sociétés qu'ils pensent primitives. Nous ne le pensons plus aujourd'hui, bien sûr, mais ils ont une fascination pour toutes les civilisations primitives, c'est-à-dire absolument pas corrompues par la civilisation. Ils le disent gentiment. Hein. Donc ils s'intéressent à cet art-là, et donc Picasso regarde cette tête. Giacometti regarde cette tête. Harpe regarde cette tête. Brancusi regarde cette tête. Cette fameuse tête de Kéros, cette fameuse Joconde de l'art cycladique. Et ça provoque toute une série de créations qu'on va montrer dans l'exposition. Vincent Blanchard et moi-même, nous avons contacté nos amis du Centre Pompidou, de la Fondation Giacometti, du Musée Zadkine. Très franchement, par les temps de pandémie qui courent, on a téléphoné aux bons collègues pour dire bon, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut s'aider, parce que c'est difficile de monter une expo en ce moment. Et il faut reconnaître qu'on a été très aidés et qu'une belle sélection de cet art du XXe siècle sera présent à Rodez.
Et puis des choses aussi carrément contemporaines qui sont en train de se faire en ce moment même.
Oui, parce qu'on a rencontré des artistes contemporains, on leur en a parlé, et bien ils vont créer exprès pour l'expo. Alors on ne vous dit pas quoi, c'est la surprise, mais il y aura un Américain et un Chinois notamment, donc vous voyez, des gens qui viennent de toutes parts, qui travaillent la sculpture comme la peinture, qui vont regarder cette fameuse tête de Kéros, cette tête d'idole cycladique si emblématique, et qui vont en proposer leur vision à leur manière.
C'est plus de 60 pièces qui vont être prêtées par le Louvre à l'occasion de cette exposition. Elles ne vont pas vous manquer, vous manquez au Louvre ?
Alors, certaines de ces pièces sont en salle et elles vont évidemment manquer au Louvre, mais c'est le jeu des expositions temporaires. C'est aussi pour ça que, en même temps, quand on monte un projet qui a une signification, comme ici ces rapprochements culturels, aussi bien au sein de l'exposition que entre l'exposition et le lieu, le musée Fenaille, eh bien oui, on accepte que ces œuvres nous manquent pendant quelques mois pour qu'elles soient vues différemment. Une exposition, c'est l'occasion de voir différemment des œuvres parce qu'on les rapproche avec d'autres. Justement, c'est surtout ces questions de rapprochement. On va avoir des œuvres du Louvre, mais aussi des œuvres d'autres musées, allemands, belges notamment, et aussi ce rapprochement dont parlait Ludovic sur les œuvres antiques et finalement leur inspiration contemporaine et moderne, eh bien, c'est grâce aux expositions. Donc oui, les œuvres manquent dans les espaces permanents, mais on crée autre chose dans le cadre de l'expo temporaire grâce aux rapprochements qui vont permettre au public de les découvrir différemment et finalement d'en apprendre plus et de ressentir différemment le rapport à ces œuvres.
Vous connaissiez, alors peut-être de nom quand même, le musée Fenaille, vous aviez déjà eu l'occasion d'y venir?
Bien sûr, notamment moi, enfin, bon, Ludovic aussi, mais notre sensibilité d'archéologue ne peut qu'être frappée par la singularité des statues menhirs. C'est un ensemble assez exceptionnel.
Vous n'en avez pas au Louvre des statues menhirs?
Non, parce que nos collections ne sont pas liées à notre territoire pour cette période. Il faut plutôt aller au musée d'archéologie nationale Saint-Germain-en-Laye, qui a effectivement des œuvres semblables, mais c'est un ensemble unique qu'il faut venir voir ici.
C'est le plus bel ensemble. Voilà. L'ensemble de Rodez, c'est le plus bel ensemble, c'est pour ça qu'on le connaît, c'est pour ça qu'on était déjà venu à Rodez. Et puis Rodez, c'est beaucoup de choses. On était déjà venu à Rodez parce que le musée Fenaille, parce que les statues menhirs, parce que le musée Soulages, parce que la cathédrale, parce que les projets de Soulages pour Conques, donc pour aller faire un tour à Conques. Donc évidemment qu'on connaît la région. Donc quand on a discuté de ce projet d'exposition et qu'on s'est rendu compte que le musée de Rodez était intéressé, on était ravis de le faire ici. Donc ça s'est fait très naturellement parce que nous, on avait envie de traiter ce sujet. Le musée de Rodez avait envie de traiter des sujets sur les formes simples, les formes stylisées, en raison de la présence des statues menhirs dans leur collection. On a tout de suite eu envie de travailler ensemble. Et puis en plus, pour être très franc, on aime bien Rodez parce qu'il fait bon vivre à Rodez aussi. Ouais. Donc, alors là, les restaurants sont fermés, mais enfin, voilà. On espère que pour l'ouverture, on pourra. Il y a quand même des endroits où c'est très agréable d'aller faire des expositions. Je vous fais pas de dessin, mais bon.
Je comprends. Bon, et on espère tous que pour l'ouverture, même les restaurants seront ouverts. Ouverture le 12 juin. Et pour patienter, puis peut-être s'informer un petit peu plus sur l'art des Cyclades et de l'Anatolie de l'âge de bronze, qui est peut-être pas le plus connu des Français. Vous nous présentez, alors on appelle pas ça une visioconférence,
une conférence en ligne qui aura lieu donc le mercredi 31 mars à 12h30, qui va durer une heure, qui sera donc visible en ligne en même temps que la conférence se fera, puis présente sur les réseaux sociaux du Louvre, sur la chaîne YouTube du Louvre, etc. Si on ne peut pas la voir le mercredi 31 mars à 12h30 précise, on peut la voir plus tard. Quand on le souhaite, donc en replay sur notre chaîne YouTube, celle du Louvre, ou avec des liens sur les différents réseaux sociaux du Louvre, bien évidemment.